Rosaway, un duo talentueux.
Devant un parterre de fidèles et de curieux, le concert de Rosaway au Café Provisoire de Manosque a su attirer les mélomanes. Il est déjà loin le temps du premier concert donné en août 2017 au bord du lac des Buissonnades d'Oraison, car le duo a sacrément grandi. Rachel, la flûtiste, a gagné en maturité et sa voix, à la tessiture étonnante, donne maintenant sa pleine mesure. Quant à Stéphane, batteur réputé, sa maîtrise des fûts n'est plus à prouver, mais en ajoutant divers instruments à son propre son, il patine agréablement ses partitions, car ce travailleur acharné est toujours à la recherche de nouveautés, et ce, même avec des anciennes mécaniques et sonorités analogiques. Ce duo étonnant et détonnant a livré un show fort agréable à Manosque, et le fait de s'être produit notamment à New York n'y est sûrement pas pour rien. Je vous propose d'écouter Rachel et Stéphane, autrement dit Rosaway, au micro de Jean-Marc Leca.
Rachel, on est en pleine robe crinoline.
Oui, bonsoir.
En crise de robe, on va dire.
Mais c'est une robe pour rester debout, en fait. Donc voilà, si je m'assois, je le sais. Je le sais que ça ne marche pas.
La créatrice n'a pas fait cette robe pour que tu... Voilà, pour s'asseoir. Du coup, c'est
ni pour peu... que ça soit confortable.
Alors, c'est le duo Rosaway, Rachel Ombredane et Stéphane Villaneda qui étaient en concert ce soir au Café Provisoire à Manosque. Que de changements depuis le concert d'Oraison?
Complètement, mais j'espère que ça a évolué, j'espère que ça a plu, et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé là, cette dernière année.
On a beaucoup grandi en un an finalement, parce que c'était il y a un an. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour nous et qui nous ont fait grandir très rapidement. Déjà 20 concerts, 2 aux États-Unis, et là, d'un coup, quand on joue aux États-Unis, il y a quand même un déclic qui se produit, donc on commence à être assez content et assez fier de présenter le projet là, ça y est, ça commence.
Ça commence.
Le fait d'enregistrer aux États-Unis, ça donne une autre dimension?
En fait, ce qui donne une autre dimension, c'est la première fois que vous montez sur scène aux États-Unis, qu'il y a 120 personnes devant vous et que les gens sont comme des dingues en train de sauter, de danser, de chanter parce qu'ils comprennent ce qu'on dit et qui viennent vous voir et qui disent « Oh là là, mais c'est extraordinaire !» alors que eux, des bons musiciens, notamment à New York, il y en a plein. Et là, c'est énorme en fait. C'est un peu indescriptible, mais c'est très très fort en fait.
Et la cerise sur le gâteau, c'est quand le label qui a les artistes que vous respectez le plus au monde vous signe et vous propose une journée de studio pour enregistrer votre single, alors que ces gens-là ont dans leur label Christian Scott, la plupart des gens de Snarky Puppy, Aaron Parks, des gens qu'on respecte et qu'on écoute depuis qu'on est jeune. Comme je le disais, c'est la cerise sur le gâteau.
Disons qu'on n'oubliera pas le 1er mai 2018 qu'on a passé dans ce studio complètement incroyable à New York.
Et la morceau Freedom, le titre est venu comment? C'est là-bas, c'est ici, c'est venu comment?
C'était ici.
Oui, on l'a écrit ici.
On l'a écrit ici.
On l'a écrit ici, ouais, tout à fait. En fait, on l'a écrit aussi parce que on le dit pas sur scène, parce qu'on essaye de pas faire une récupération de l'actualité, mais nous, on habite à Barbès, donc à côté de chez nous, il y avait le camp de migrants. Il y a eu 2 fois des camps de migrants, et en fait, on sort de chez soi, de notre appart et de notre immeuble haussmannien, et on voit ces gens dans la rue, en fait. Et toute cette actualité, et notamment à Paris, on est très confronté à cette...
proche de ça, en fait. Oui.
Voilà, et on voit des enfants dans la rue, comme ça, à moitié nus, parqués sur 100 mètres. Et en fait, ça nous est venu comme ça. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on dit sur scène, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais nous, pour nous, c'est un peu particulier, cette chanson.
Et toi, Stéphane, pour la batterie, tu as mis pas mal d'électronique, encore de plus en plus.
Oui.
Comment tu le gères ?
Bah, en fait, je gère beaucoup du coup à la maison en pré-prod. C'est vrai que j'ai acheté du nouveau matériel. Je travaille maintenant avec un Moog analogique pour composer des basses, des parties, des contre-champs. Et du coup, forcément, utiliser des matériaux, enfin des éléments analogiques qui sonnent beaucoup mieux, avec une chaleur forcément plus importante qu'un son sur l'ordinateur. Donc ça, c'est une approche qui a été différente ces 6 derniers mois à peu près. Donc ça nous a fait aussi avancer. Le fait d'avoir des machines plus performantes et qui ont cette chaleur de son qu'on n'avait pas avant.
Et qu'on recherchait, parce qu'en fait l'essence du projet, c'était aussi ça, c'était de mettre sur scène et en avant des instruments acoustiques, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup beaucoup d'électronique. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'être le énième groupe à le faire, il y a des groupes qui le font très très bien, et on voulait aussi défendre le fait que on peut faire un instrument dit traditionnel et être un peu cool a priori.
Complètement.
Donc c'était aussi le but, et puis forcément batterie flûte, parce que on oublie souvent ces deux instruments, je crois.
Oui.
Du coup on s'était dit voilà.
Mais là, du coup, utiliser ces sons électroniques mais analogiques envoyer de mon module de son et les confronter à vraiment ce son batterie complètement acoustique et flûte acoustique complètement sans trafic. Donc il y a vraiment ce mélange et ce mix de sons électro, un peu vintage, vu qu'on utilise des sons Moog, des Rhodes, confrontés à ces sons acoustiques qu'on a avec nos instruments en fait.
Toi Rachel, au niveau de la flûte traversière, tu fais corps. Stéphane, lui, fait corps avec sa caisse claire, c'est de plus en plus flagrant.
Oui, complètement. Mais c'est vraiment, étant donné qu'on va aussi vers quelque chose de très New Orleans, étant donné que j'adore ça, la caisse claire est tellement présente dans la culture New Orleans que je suis forcément poussé à utiliser cet instrument, même sans le faire exprès en fait. Dès qu'il y a une recherche de son, je suis vraiment directement porté vers ma caisse claire.
Mais ça fait partie aussi du projet, on avait envie de quelque chose de très très brut aussi au niveau sonore, de vraiment ces deux instruments mis à nu le plus possible. Alors évidemment on les emballe un peu pour que ça puisse parler aux gens, que les gens puissent chanter, mais l'idée c'est aussi d'avoir ces instruments bruts et finalement la caisse claire c'est quand même peut-être ce qui, je pense, qui représente en tout cas pour les gens le plus la batterie en fait.
Et prochaine étape pour vous deux ?
Prochaine étape, c'est l'EP. L'EP en janvier.
Qui sort sous ce label, encore une fois.
Qui sort, voilà, sous le label Ropedope, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est d'aller jouer à Los Angeles en janvier. Donc ça, c'est une grosse étape aussi pour nous. Et puis, l'étape suivante, c'est que des gens nous repèrent et se disent, je pense que ce groupe-là, il faut les signer et il faut les mettre sur scène.
C'est
voilà,
ça.
Ceci est un appel.
Et puis des dates aussi. Donc on a une date en Italie. Je pense qu'on va en trouver une deuxième aussi. On a quelques dates en France là qui commencent à se débloquer, déjà des dates signées, une date à Marseille pour un petit festival de jazz. Donc voilà, plein de choses qui se dessinent pour 2019.